Ils sont arrivés en début d'après-midi, ils ont mangé et ensuite, direction La Balance, il y avait un cagnard impressionnant, coup de soleil en boucle. Ils sont 10 plus leur directeur, celui qui est à l'origine du projet, Guy Gouchenvier. Guy Gouchenvier qui est un vieux complice de Ferdinand Richard, puisqu'il faisait partie avec Ferdinand Richard au milieu des années 70 d'un groupe qui s'appelait Étrons Fous le Loup Blanc. Les initiés de musique expérimentale ou de rock un petit peu déjanté s'en souviendront. Les figures en pleine balance, on rencontre d'abord Nicolas, le bassiste, et puis ensuite entretien avec Guy Gouchenvier.
Voilà, ça tourne, 1-2-1-2. Je peux discuter avec toi si j'ai le truc prêt, tu vois, les balances là vont pas gêner.
Et salut, et les balances jettent pas, t'as raison, et c'est
t'as
top.
vu?
Voilà.
C'est Nicolas, c'est ça?
Voilà, c'est.
Nicolas des figures?
Voilà.
Bassiste des figures?
Bassiste des figures.
Arrivé depuis quand hein, sur les lieux du théâtre?
Oh bah depuis que je suis né, hein, vous savez, moi. Non. Je dois dire une connerie ou pas là?
Non, vous avez débarqué depuis quand là?
Ici là?
Les figures,
ah bah hein. le. Non mais attends. Attends, reprenons là. Non parce que c'est facile. Tu veux dire à quelle heure on est arrivé là? Parce que j'ai eu des emmerdes de bagnole. Bagnole compris ou...
Emmerdement compris.
Non, depuis le début de l'après-midi là. Ouais, deux heures et demie.
Vous êtes dans une tournée là ou vous êtes ici juste pour le mimi?
C'est une tournée qui est assez dispatchée en fait. Puisque après effectivement on a des dates sur Paris, Créteil et La Villette. Et même Strasbourg normalement. Mais ça sera tout écarté d'un mois ou deux quoi, en fait. Quoi. C'est pas une tournée concentrée je dirais.
Tu as participé au marathon des 12 heures?
Oui.
C'était quoi ce truc de fou?
C'était affolant. C'était affolant. En fait, c'est donc 12 heures de musique non-stop avec 16 musiciens. Il y en avait toujours en permanence, je crois que c'était 7 sur scène et on se relayait. Et c'était une mesure à 13 temps sur un thème d'Eric Satie qui était répété pendant 12 heures. Voilà. On a commencé à midi, on a fini à minuit. Quoi. Non-stop, le même thème, 13 temps, avec quelques variantes grâce à des improvisations de chacun, quoi. Mais sinon toujours pareil. Quoi. Et c'était assez délirant. Quoi. Il s'en est dégagé des moments inexplicables. Quoi.
Vous faisiez quoi quand vous n'étiez pas sur scène pour le marathon et le public il est resté pendant 12 heures?
Alors en fait, nous quand on ne jouait pas, il y avait également un relais en ce qui concerne le chef d'orchestre. En fait. Il y en avait un qui dirigeait et qui lançait des impros. Et, ou alors qui déclenchait un petit peu des sons un petit peu bizarres. Chacun on avait des codes en fait hein, pour pouvoir un petit peu s'écarter de ce thème. Et donc soit on dirigeait, soit bah, on faisait un petit peu la pause parce que c'était pas toujours évident. Mais...
Et le public?
Et le public, dans un premier temps, scotchage. Scotchage. Et en fait, je crois qu'il s'est passé exactement comme nous. C'est-à-dire que ça a été général dans le lieu. Il y a une sorte de transe et plus personne bougeait. Il y a eu énormément de monde et ça a défilé un petit peu. Hein. Il y avait des mouvements, quoi. Hein. Mais je crois que le public a bien cerné que on n'avait pas l'habitude d'entendre ça et que il se dégageait des choses hors du commun, quoi. C'était assez sympa, quoi.
C'était où et c'était quand?
Alors ça avait lieu dans un bar, Place Pie, à Avignon. Et nous avons fait ça, c'était l'été dernier, ça date déjà d'un an quand même.
Ouais. Il y avait d'autres musicos, des figures qui participaient à ça?
Alors en fait, des figures, là aujourd'hui, nous sommes 3, 5, 6, 7, 8, et il y a 8 musiciens. À la base, les figures, c'est 16 musiciens. Et bon, il y en a qui n'ont pas reconduit l'expérience, en fait, qui se sont arrêtés au marathon, justement, un petit peu. Et voilà, il y en a 8 qui continuent.
Pour le concert de ce soir, les figures sont au complet?
Non, on est 8. Hein. 8. 8. Je te dis, il y en a 8 qui ont arrêté et qui, eux, ne viendront pas, même à Créteil. Là, c'est au complet, mais pour 8. Quoi.
Ouais. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil au dossier de presse? Tu l'as vu? Tu l'as pas vu? Parce qu'il y a signalé, sur la fiche signalétique de chaque musicien, marqué leur instrument, il y a marqué d'où ils viennent, et il y a marqué CEC, RMiste. Tout
ah
ça.
Oui.
C'est quoi? C'est un gag? C'est important?
Non. Alors, à la base, quand même, il faut préciser que les figures, le groupe, est issu d'un stage qui a été organisé par Guy Gouchenvier, qui, à la base, était un stage de 8 mois pour travailler un petit peu sur ses compositions. Et effectivement, au niveau des aides de la ville, etc., qui étaient données pour ce stage, c'était précisé que c'était avant tout pour les RMistes. Voilà, pour les musiciens, bon, mais RMistes, quoi. Et finalement, bon, il y a plusieurs choses qui sont greffées, voilà, RMiste, CES, tout ça. Alors, après, ça a été plutôt sujet de rigolade, parce qu'à chaque fois qu'il y avait un article, à chaque fois c'était précisé, Alors c'était les musiciens des figures, mais quand même chômeur ou cesse ou etc. Enfin, maintenant on se marre quoi, c'est délirant quoi. Mais à la base c'est vrai que le stage était réservé aux Rémis quoi. C'était un bon projet quoi à la base quand même. Quoi. Ouais.
Les figures existent depuis quand?
Alors ça fait 2 ans que le stage a eu lieu. Il a donc duré 8 mois. Et puis ensuite on a continué ensemble, on n'a pas eu envie de s'arrêter là parce que normalement c'était fini quoi. Au bout de 8 mois tout le monde rentrait chez soi quoi. Et puis finalement avec les compos de Guigou Chenevier qui sont assez délirantes et qui ont ouvert des oreilles à pas mal de personnes dans le groupe quoi. On a dit c'est pas possible qu'on arrête quoi. Personne ne joue ce style de musique à côté puisqu'on fait tous plus ou moins partie de groupes à côté de ça quoi. Et personne n'a voulu arrêter quoi. C'est une autre musique, c'est une autre manière, c'est bien quoi. Hein, enrichissant pour tout le monde.
C'est uniquement des compos de Guigou.
Uniquement des compositions de Guigou Chenevier, ouais. Mmh, ouais. Mais bon, avec plaisir. Hein. Vraiment quoi.
Toi, quand t'es bassiste en dehors des figures, tu joues quel style de musique?
Bah moi, c'est plutôt rock. Je fais partie d'un trio rock qui s'appelle HDB, qui se met à pas mal fonctionner dans le coin.
Tu me fais une présentation rapide des musiciens et des groupes dans lesquels ils jouent?
Alors, bon, j'ai peur de dire une connerie au sujet des groupes parce que je sais qu'il y en a, que ça change souvent. Pour la présentation, je pense pouvoir m'en sortir. Au saxo, il y a Cyril, qui vient de Bourg-en-Bresse, qui joue dans plusieurs formations à côté, lui. Au trombone, Jean-Michel Steuber, qui joue également dans un groupe qui s'appelle l'Expérience Carpe Diem, à Avignon. À côté de lui, au premier clavier, Lionel Crouzet, qui lui fait, je crois, des duos un peu piano-bar à côté. À côté de Lionel, on trouve Hamid. Alors Hamid, il joue dans le groupe Abracadaraï. C'est donc du rail et c'est excellent. À côté d'Amid, il y a Edgar. Edgar, lui, travaille pas mal sur les sons, fait un petit peu de techno, jungle, mais avec pas mal de recherches.
Toujours au synthé?
Toujours au synthé. Enfin, c'est un synthé un petit peu bizarre. Ça s'appelle le MS-20. C'est plus des sons bizarres qu'un synthé, quoi, en fait. Hein. Voilà, vous pouvez entendre Amid en plein goût. À la première batterie, c'est Eric. Première batterie, Eric. Je ne sais pas trop ce qu'Eric fait à côté. Deuxième batterie, Gilles, qui lui a fait pas mal de jazz et qui tenait un jazz club d'ailleurs, je crois, sur Paris.
Pourquoi deux batteries?
Je sais pas.
Ça change
je sais pas. En fait, au début du stage, quand on s'est présenté à Guigou Chenevier, quand il a mis une annonce pour chercher des musiciens, c'était complètement libre, il n'y allait pas y avoir de différence. C'est pas parce qu'il y avait un batteur que ça y est, il n'y avait plus de place pour d'autres batteurs quoi. Je crois même que s'il y en avait eu 3-4, c'était pas le problème. Faut dire qu'au début, quand on était 16, il y avait quand même 7 guitaristes quoi. Donc okay. Tu vois, c'était pas trop le problème.
La suite du clan.
Ensuite, une des guitares, c'est Stéphane Crouzet, qui je crois qu'il joue essentiellement dans les figures. Je sais pas trop ce qu'il fait à côté. Et enfin, Pierre Bénichou, qui lui a a pas mal d'expérience et également d'enseignement. Je crois qu'il enseigne, il est intervenant, je crois. Voilà.
Et toi à la basse?
Et moi à la basse, voilà.
Merci Nico.
De rien, merci à vous, super machine, super.
La superbe machine dont parlait Nicolas, le bassiste des Figures, s'appelle le Nagra. Et c'est l'instrument enregistreur chéri des journaleux et autres reporteux depuis déjà quelques décennies. Et encore utilisé aujourd'hui pour ses qualités de prise de son et pour le grain particulier qu'elle répercute ensuite au niveau du son. Toujours le son, plus de son. Il y a gras de monde sur la scène du théâtre antique. Pour l'instant, les figures sont en train de s'installer, en particulier les claviers. On est en train aussi de débarrasser tout le matériel des recyclers. Cette soirée, elle est particulière aussi puisque c'est un peu la soirée des jeunes, excepté Guigou Chenevier et Pierre Bénichou, des figures qui sont des hommes d'expérience. Entre le reste de l'équipe des figures et les recyclers, une moyenne d'âge de 30 ans pour clôturer cette 12e édition du Festival Mimi. Cet après-midi, on rencontrait donc Nicolas, le bassiste des figures, pendant la balance. À la fin de la balance, après que Guigou Chenevier soit allé fumer une clope et passer dans les loges, il montait en haut, on ne peut pas monter en bas, ma mère me l'avait dit, on ne dit pas, tu montes en haut, tu montes, c'est tout. Donc il a monté avec nous les escaliers, on s'est retrouvé ici dans une salle climatisée, puisque dehors c'est ça tapait sévère, même encore aux alentours de 18h-18h30, et puis on a parlé de manière un peu différente de ce projet monté par Guigou Chenevier, Les Figures. Guigou Chenevier, on pourrait revenir d'abord sur l'origine du projet, Les Figures, le stage, quand il est né, pourquoi ?
Il est né, il y a longtemps déjà, parce que c'est un projet qui a mis à peu près 3 ans à aboutir. Donc c'était une longue aventure. On s'est battu à Avignon avec différentes structures, les institutions, les partenaires divers et variés pour les convaincre de l'intérêt d'un projet comme celui-là. Ça a pris du temps et la définition du projet lui-même a un peu changé au cours du temps. Donc voilà, j'ai commencé à travailler là-dessus à peu près en 94 et ça a abouti l'année dernière, quoi. Le stage a commencé en octobre 96, en octobre 95 et fini en mai 96.
Quels étaient les arguments pour convaincre là, pendant cette bataille ?
Mais les arguments, ce n'étaient pas les mêmes selon les partenaires et selon qui s'adressait à nous et qui était prêt à suivre cette histoire. Bon, ce que je voulais faire, c'était travailler avec 15 musiciens pendant 8 mois, avec tout ce que ça représentait comme aventure musicale et humaine. Et les partenaires qui ont suivi l'histoire, évidemment, essayaient de tirer ça vers un aspect plus social, qui, moi, m'embêtait un peu par moment dans sa définition. Et notamment, on s'est beaucoup pris la tête avec un peu tout le monde pour définir quel public aurait accès au stage. Alors les uns voulant que ce soit des RMIs, les autres voulant que ce soit des gens de moins de 25 ans, etc., etc. Bon, ça c'était des salades internes aux différents subventionneurs, partenaires, etc. Et bon, je me sentais un petit peu... Le mot n'est même pas exclu de ce débat ou dépassé par ça, mais j'avais l'impression qu'au départ, tous ces gens-là ont mis beaucoup de temps à nous faire confiance sur l'intérêt du projet. Et mettant en doute la fiabilité, le sérieux artistique, disons, pas le mien nécessairement, mais d'une manière générale. Et finalement, je me suis aperçu que souvent, ils étaient beaucoup moins sérieux que nous dans leur manière de travailler et de pouvoir communiquer les uns avec les autres d'une institution à une autre, par exemple, ou comment définir le public. Donc c'était un peu chaotique et compliqué, et puis voilà, finalement ça a finalement réussi à se mettre en place.
On a demandé déjà pendant la balance à Nicolas le bassiste, est-ce que vous avez vu le dossier de presse, il y a marqué sur la fiche signalétique des musiciens, bon, qui ils sont, quels sont leurs styles, et puis il y a marqué RMiste, CEC. Alors Nicolas nous disait que c'était parti de fil en aiguille, presque comme un gag.
Moi je regrette un peu que ça apparaisse dans le dossier de presse, parce que bon, j'ai travaillé sur ce projet en fin de parcours avec Paul Blanc, qui est directeur de la MJC de la Croix des Oiseaux, avec qui on s'est très bien entendu sur ce qu'on voulait faire de ce projet, et notamment sur le fait que ça ne nous intéressait pas du tout de mettre en avant les difficultés sociales éventuelles des uns ou des autres. Et moi, quand j'ai travaillé avec eux, j'avais en face de moi des musiciens et non pas des RMistes ou des CES ou quoi que ce soit d'autre, et on a essayé d'être très prudent pour que la presse et les médias en général ne s'emparent pas de ça comme d'argument de vente. Cette fiche signalétique là, elle était destinée plus aux partenaires pour leur mettre un peu pour les mettre un peu en face de ce que les gens étaient devenus à la sortie du stage, savoir qu'il y en a qui ont réussi, un certain nombre ont réussi à devenir intermittents du spectacle avec tout ce que ça veut dire, d'autres sont retombés dans leur statut RMiste, etc. Mais c'était pas vraiment une fiche qui était destinée au public.
Parmi les différentes fois, je crois que c'est les 4 fois où on a déjà vu les figures sur scène, il y a ce fameux marathon de 12 heures. C'était une idée de vous ?
Oui. Ouais.
Avec, c'est quoi, la réadaptation d'un thème d'Éric Satie ?
Oui, c'était. Je suis parti d'une pièce de Satie qui s'appelle Vexation, qu'il a écrit, je ne sais plus en quelle année, mais qu'il n'a pas joué en fait. Je ne crois pas que c'était joué de son vivant. Ça a été repris après par des gens comme Cage, etc. Qui l'ont joué sous différentes formes. Il y a eu des versions avec une dizaine de pianistes qui se relayaient, etc. Mais c'est une pièce très, très, très courte, en fait, qui était censée être jouée par X pianistes qui devaient se relayer toutes les temps de heures, etc. Et en fait, ce que je voulais, puisque vu le montage un peu chaotique du projet, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une période où l'aspect formation de ce projet-là a complètement capoté parce que ça a fait jeu de cartes et qu'il y a un partenaire qui s'est désengagé et donc tous les autres après se sont désengagés, etc. Mais cela dit, il y avait déjà une partie des crédits qui avaient été engagés sur l'aspect purement création de ce qu'on allait faire dans ce stage, ce qui m'a permis par ailleurs de faire une autre création, moi musicale, avec des musiciens amateurs, mais que j'ai rencontré de façon très informelle, sans aucune notion pédagogique ni rien du tout. Et je dis ça parce que du coup, en fait, ces problèmes qui se sont posés pour le montage du projet dans son ensemble ont été bénéfiques dans le sens où, au départ, ce qui était prévu, c'était une formation et puis une grosse création en bout de course. Et finalement, on n'avait pas les moyens de faire cette création puisque les moyens avaient déjà été mangés par un travail que j'avais fait avant. Donc on se trouvait avec l'argent qu'on avait pour la formation, point, pratiquement. Ce qui nous a été obligé, dans un sens, et ce qui était très bien, de trouver des formes de présentation publique du travail qui coûtent pas cher, qui étaient différentes d'une grosse création et qui correspondaient en fait beaucoup mieux à ce que je voulais faire moi par rapport aux musiciens. Alors c'est vrai que comme une des choses les plus importantes de ce projet-là, c'était la dimension du temps, parce qu'on a travaillé 8 mois ensemble, à raison de 2 jours et demi pleins par semaine pour la musique, 2 jours et demi pleins pour le reste de la semaine avec un organisme de formation, pour tout ce qui concernait les apports complémentaires que ces gens-là pouvaient avoir besoin d'apprendre, que ce soit montage de dossiers, comment on fait un CV, etc. etc. J'avais envie de trouver en cours du temps de travail une manifestation qui représente un peu ce temps. Et ce qui a été assez rigolo, c'est qu'en fait on a essayé de solliciter les différentes salles de spectacle sur Avignon qui, pour des raisons multiples, ont toutes refusé de nous prêter une salle pendant 12 heures. Donc on s'est finalement retrouvé dans un café, qui est un café du commerce Plaspi, qui est un lieu de passage, qui n'est ni plus ni moins qu'un café tout à fait normal, qui a accepté volontiers et tout de suite quand on leur en a parlé. Et en fait c'était très bien, parce que du coup les gens sont passés là, beaucoup de gens sont passés qui ne seraient pas forcément passés pour aller à un concert. D'ailleurs c'était pas un concert, et c'était une expérience extraordinaire.
Concrètement, quelles sont les difficultés et les plaisirs de diriger aujourd'hui 10 musiciens ? Il y en avait 16 au départ. Aujourd'hui, d'en diriger 10 ?
Les difficultés et les plaisirs, c'est un vaste programme, ça. Je dirais que le grand plaisir, c'est de voir tout le parcours qui a été fait, d'où ces gens-là sont venus, avec toute leur histoire et leur background musical et humain chacun. Chacun a une histoire très particulière et unique. Et de voir qu'on arrive à faire un groupe qui se tient et que ces gens-là ont envie de continuer à faire ce travail de recherche qu'on a un peu initié ensemble. Et de voir que tout ça progresse ensemble et que ça avance et que ça mûrit petit à petit. Et que, bon, ça c'est le plaisir principal, évidemment. Et puis les difficultés, elles sont liées aux difficultés que chacun rencontre dans sa vie quotidienne. évidemment qu'il y en a qui ont des problèmes pour s'en sortir, pour vivre, etc., pour trouver du boulot dans la musique, donc ils sont obligés de faire des boulots à la con, etc., et que bon, moi ça me fait un peu de mal pour eux à des moments de voir qu'ils sont obligés d'aller décharger les camions, des choses comme ça. En même temps, je pense que c'est inévitable. Et en même temps, ça a été très clair depuis le début de ce projet, il n'était pas question de les faire rêver et de leur dire qu'en faisant un stage comme ça, au bout de 8 mois, ils allaient devenir professionnels et vivre de ce qu'ils faisaient, etc. Mais bon, moi, ce qui est aussi important, c'est que chacun dans le genre de musique, dans ce qui l'intéresse plus profondément, que ce soit pour les uns le rock, que ce soit pour les autres le rail ou le rap ou le jazz, ou enfin, peu importe, je pense qu'une certaine manière, le travail qu'on a fait a marqué un petit peu ce qu'ils font. Et je pense qu'ils font plus exactement du rail ou du rap ou du rock de la même manière qu'avant. Quoi. Et bon, moi, ça me plaît bien.
Ça, c'est les apports en ce qui les concerne. Maintenant, en ce qui vous concerne, vous, le fait d'être dirigé une dizaine de musiciens, le fait, on vous a vu en balance, d'être chef d'orchestre, qu'est-ce que vous, ça vous a apporté musicalement, humainement ?
Humainement, par rapport au groupe, c'est moi ce que je trouve le plus... Enfin, ce qui m'a le plus apporté, c'était la richesse de chaque individu, aussi bien musicalement qu'humainement, et de voir ce que... En fait, de confirmer des idées ou des intuitions que je pouvais avoir, notamment sur ce que c'est qu'un musicien ou qu'est-ce qu'est un musicien ou qu'est-ce que n'est pas un musicien. Est-ce qu'un musicien, c'est un technicien de son instrument ou est-ce que c'est autre chose que ça? Et bon, je pensais que c'était autre chose que ça, et pour moi, c'est confirmé là. C'est-à-dire que souvent, je vois des concerts de gens qui sont dits bons musiciens, bons techniciens, et je m'emmerde, et je trouve ça chiant. Et je trouve que c'est que la répétition de clichés ou des choses comme ça. Et souvent, je vois des gens qui sont, a priori, soi-disant de mauvais techniciens de leur instrument, mais il y a quelque chose qui passe au-delà de ça. Une émotion, un sentiment, quelque chose, quoi. Et je crois que c'est ça, c'est vraiment là-dessus qu'on a essayé de travailler.
Vous avez composé les pièces en fonction des musiciens ?
J'avais rien écrit avant, parce que je voulais les connaître d'abord. Et puis les choses, elles se sont faites petit à petit, en fait. Alors il y a des choses, dans ce qu'on va jouer ce soir, il y a des choses qui datent du tout début du stage, qui étaient des choses très simples, qui sont en fait s'avèrent bizarrement, après tout le travail parcouru, aussi bien technique que de réflexion sur ce que c'est que la musique, c'est curieusement des morceaux qui s'avèrent être les plus durs à jouer. Parce que bon, c'était des choses que j'avais écrites qui étaient très simples à jouer, mais tout ce qui est très simple à jouer est en fait très dur à jouer pour que que ça donne quelque chose. Quoi. Après, bon, on a construit davantage, on a fait des choses plus compliquées, plus arrangées, etc. Et bon, c'est un peu le mélange de tout ça, quoi. Avec tout le travail qu'on a fait aussi sur l'improvisation et l'apport de chacun, quoi.
En dehors de ce projet, quelle est l'actualité de Guigou Chenevier ?
Prendre des vacances.
Pour l'instant, pas de vacances. Guigou Chenevier, on l'a rencontré cet après-midi au Théâtre Antique d'Arles. Il supervise la montée sur scène de ses musiciens. Ça se fait doucement. Ferdinand Richard est à l'affût pour pouvoir remonter sur scène et annoncer cette dernière soirée. On va se retrouver d'ici 5-10 minutes en attendant l'une des dernières sorties actuelles, le nouveau Massive Attack.
C'est très intéressant de terminer par les figures, parce que les figures, c'est l'image de l'émergence locale. Nous ici, on fait le Festival Mimi, mais on fait plein d'autres choses toute l'année. On est très nombreux à faire des choses toute l'année. On est loin des capitales. Et pour nous, c'est très important de faire en sorte que les talents locaux émergent. Guigou est installé dans cette région depuis très longtemps, à peu près aussi longtemps que moi, et il transmet des choses comme ça avec des gens qui sont ici, et c'est tout simple, je ne sais pas mieux en parler. Je pense que les jeunes avec qui je travaille à la Friche font toujours des spéciales dédicaces En général, j'ose pas parce que j'ai plus l'âge d'employer ce genre de terme. Si j'avais une spéciale dédicace à faire ce soir, avant ce concert, je la ferais à Paul Blanc, bien sûr, qui s'occupe de la MJC La Croix des Oiseaux Avignon et qui nous montre depuis très longtemps comment on fait marcher la culture. Donc, merci Paul Blanc, merci, et donc merci à vous de venir à Mimi régulièrement. J'arrête là parce que c'est assez minable et on aura après donc la scène ouverte un peu plus bas. Bonne fin de festival, merci à tous. Thank you very much. This is now the local rising of young talents conducted by Guigou Chenvier on his music, and this is coming up from a local place in Avignon, not in the center of the city, and this is a real open fire for rising up talents here. Now, please, les figures, the faces, les figures.
Ferdinand Richard, le directeur du Festival Mimi, vient d'annoncer la venue sur scène de son vieux complice, Guigou Chenvier, qui faisait partie des Troncs le Fou Blanc, formation expérimental rock dans les années 70. Guigou Chenvier est sur scène. Ses musiciens s'installent. Un petit mot là sur l'humour de Ferdinand Richard sur son auto je suis minable. On l'a vu toutes les soirées à la scène ouverte en tant qu'animateur des scènes ouvertes et il nous a semblé avoir en face de nous un équivalent français de John Cleese. Festival Mimi, c'est la dernière, la nuit du recyclage, les figures dirigées par Guigou Chenvier. Bonne soirée.